Vendredi 29 janvier, bonjour et bon réveil à tous. Bienvenue sur France Inter, Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, coup de frein sur la vaccination en France, manque de doses, rendez-vous reporté, centre de vaccination fermé. Le calendrier annoncé par le gouvernement ne sera pas tenu alors que le chef de l'État doit annoncer de nouvelles mesures d'ici lundi. Les autres titres, Agnès.
Le décrochage des élèves, la souffrance des étudiants, hantise du gouvernement avant reconfinement. Nous irons au Portugal où la situation est qualifiée de dramatique. Toutes les agences Pôle emploi fermées aujourd'hui au lendemain de l'assassinat d'une conseillère à Valence. Nous serons sur place. Et puis, porter quoi pour aller où? Le casse-tête des créateurs de mode quand toute vie sociale est arrêtée.
Invité et rendez-vous de France Inter ce matin à 7h45. Ne manquez pas le débat éco du vendredi avec Thomas Piketty et Dominique Seux. Ce matin, l'Europe des vaccins. À 8h20, le grand entretien de la matinale avec le professeur en éthique médicale Emmanuel Hirsch. Il publie « Une démocratie confinée, l'éthique quoi qu'il en coûte » aux éditions ARS. Vos questions dès maintenant à Emmanuel Hirsch au 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter.
France Inter.
Revue à la baisse, la livraison des vaccins. Moderna annonce un quart de dose en moins pour le mois de février. Et ce sont 200 000 doses qui n'ont pas été livrées par Pfizer en janvier. Suspendus, les rendez-vous pour une première injection en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France et en Bourgogne-Franche-Comté. À Villeurbanne, près de Lyon, c'est un centre de vaccination qui n'ouvrira pas lundi, faute de vaccins. Coup de gueule du maire, Cédric Van Stevendel, élu socialiste au micro de Mathilde Imberti.
Au plus tôt, on pourrait ouvrir le 14 février, mais au plus tôt, sans que je sache combien de doses seraient affectées à ce centre. C'est pour ça que j'ai aussi un peu de mal par rapport à une communication gouvernementale finalement triomphaliste en disant ça va bien, on a vacciné 1,2 million, etc. Moi, je ne sais pas où ils sont les 1,2 million, en tout cas, ils ne sont pas à Villeurbanne. À ce rythme-là, on en a pour 18 mois à vacciner uniquement la population la plus fragile. Et puis, vous avez vu qu'à Lyon, ils sont en train de retarder ces vaccinations. Donc, on peut le dire, il n'y a pas suffisamment de doses de vaccins pour répondre à l'objectif de la vaccination des plus de 75 ans. On ne peut pas mobiliser les équipes municipales. On a eu des cahiers des charges extrêmement précis, extrêmement rigoureux, sur lesquels on s'est mobilisé. Donc, le centre est prêt aujourd'hui. Et puis, du jour au lendemain, nous dire, ah bah, finalement, il n'y a pas les doses. On n'est pas la variable d'ajustement de la stratégie sanitaire du gouvernement.
Une stratégie officiellement revue à la baisse hier soir, le porte-parole du gouvernement a annoncé que seuls 1 million de personnes recevraient une première dose de vaccin en février, contre près d'1,5 million au mois de janvier, soit un total de 2,5 millions de personnes vaccinées fin février, quand le ministre de la Santé tablait sur 4 millions. Les prévisions du gouvernement dépendent aussi du vaccin AstraZeneca, de son homologation aujourd'hui par l'Agence européenne du médicament, de sa disponibilité, là encore les engagements ne pourront pas tous être tenus, et de son efficacité. Des doutes subsistent pour les plus de 65 ans. L'Allemagne a d'ores et déjà décidé de ne pas l'utiliser pour les personnes âgées. Solène Lehen.
Si AstraZeneca affirme que son vaccin est efficace sur les plus de 65 ans, la directrice de l'Agence européenne du médicament est moins catégorique. Le laboratoire a testé son vaccin sur peu de personnes âgées lors des essais cliniques, dit-elle, si bien que les données manquent. Emer Cook pourrait ainsi décider d'une autorisation limitée, d'accord pour administrer ce vaccin en Europe, mais pas aux plus âgés. Dans l'hypothèse où les personnes prioritaires aujourd'hui, les plus de 75 ans, ne pourraient pas recevoir ce vaccin, la France devrait alors réorganiser sa campagne de vaccination. En parallèle des plus âgés, commencer aussi à vacciner la population plus jeune plus tôt que prévu avec ce vaccin AstraZeneca, dans un circuit sans doute classique comme pour la grippe, vaccination chez le médecin ou en pharmacie car il se conserve plus facilement que les autres vaccins. Le gouvernement instaurerait probablement là encore des priorités. La Haute Autorité de Santé avait proposé que chez les moins de 50 ans soient d'abord vaccinés les professionnels considérés comme essentiels au fonctionnement du pays, les soignants, les policiers, les enseignants ou encore les gardiens de prison.
Avec près de 24 000 nouvelles contaminations en 24 heures en France et près de 75 000 morts, la pression reste forte. Des annonces sont donc attendues en fin de semaine ou lundi. Les mesures seront ensuite discutées au Parlement. L'exécutif cherche la bonne formule, surtout en ce qui concerne les écoles et les étudiants qui souffrent depuis près d'un an. Après Paris et Lille, l'association Nightline vient d'ouvrir une antenne à Saclay dans le sud de la capitale pour répondre par téléphone ou par messagerie écrite sur Internet aux angoisses des jeunes la nuit. Un service assuré par des étudiants bénévoles que Rémi Brancato a rencontré.
Dans ce petit local d'une résidence étudiante du Crous, Billy, le président de l'antenne de l'association Nightline à Saclay, allume son ordinateur.
Donc on a les chats en attente.
80 à 100 étudiants attendent parfois de pouvoir dialoguer. Ils peuvent téléphoner ou se connecter.
Ça peut être plus facile de parler en tapant sur un clavier qu'en entendant la voix de quelqu'un. On peut se sentir moins facilement jugé, plus à l'abri.
Impossible, depuis quelques semaines, de répondre à tous les appels.
Nightline, je t'écoute.
Au bout du fil, il faut faire face à la détresse renforcée par la crise sanitaire.
Certains étudiants ont plus beaucoup d'espoir, en fait, parce qu'on ne nous donne pas vraiment de perspective d'avenir. Il y a des sujets qui reviennent comme des tentatives de suicide, malheureusement.
14 bénévoles se relaient ici du mardi au vendredi de 21h à 2h30, tous étudiants comme Paul.
Forcément, on est étudiant, on a des galères que des appelants peuvent avoir aussi. Je pense que c'est rassurant aussi pour l'appelant de savoir que c'est quelqu'un qui peut comprendre ce que la personne vit.
Alors les bénévoles tentent d'oublier leurs propres soucis.
On entre ici, là, on va chercher à mettre notre vie de côté.
Pour Camille, il faut d'urgence recréer du lien.
Beaucoup d'étudiants sont enfermés chez eux ou dans leur résidence étudiante et ils n'ont aucun moyen de pouvoir discuter avec quelqu'un autrement qu'à travers les cours à distance.
Pour leur offrir une oreille attentive, des formations sont en cours pour doubler le nombre de bénévoles.
Le reportage de Rémi Brancato, la détresse étudiante, c'est à lire aussi sur franceinter.fr. Et puis entre étudiants et anciens, la question de la priorisation, ce sera à 8h moins quart le sujet de l'édito politique de Thomas Legrand.
Il est... Direction 7h06, Agnès Souvieran, la suite du journal et les 900 centres de Pôle emploi qui vont rester fermés aujourd'hui.
Non, on va d'abord partir au Portugal, Ali, si vous le voulez bien. Le Portugal qui accumule de bien tristes records. Épargné au printemps, le pays est durement frappé depuis Noël. Un reconfinement tardif il y a 15 jours, des écoles fermées, mais seulement depuis une semaine. La promesse trop belle de vaccins qui tarde là aussi à venir. Et surtout, des variants anglais, brésiliens, sud-africains qui gagnent du terrain. Le Portugal est aujourd'hui proportionnellement le pays le plus frappé au monde. C'est comme si en France on comptait 2000 morts par jour. Reportage dans la capitale portugaise, Laurent Macchietti et Louise Baudet.
Lisbonne désertée, hormis ses hôpitaux submergés.
Ça m'inquiète. Regardez, les ambulances arrivent jusque dans la rue. Il n'y a pas assez de médecins pour autant de gens.
Chaos.
Les soignants sont épuisés comme Manuel, infirmier.
On a peur, mais c'est comme ça tous les jours depuis presque un an. Et on ne s'arrête jamais. Ça fait 20 jours d'affilée que je travaille. C'est un grand stress, une immense fatigue. Ma colère, elle est immense, parce que je me sens trompé, trahi, méprisé. Et vous savez où elle est la vérité? Pas à la télé, pas chez les politiciens.
Nous observons une croissance exponentielle des nouveaux cas, avec un nombre de décès absolument dramatique.
Le Premier ministre Antonio Costa dit pourtant les choses, mais trop tardivement, regrette Ricardo Mechia, président de l'Association nationale des médecins du secteur public.
À Noël, on a décidé de lever les restrictions. Ensuite, on aurait dû rééquilibrer parce qu'on savait que les cas allaient augmenter. Aujourd'hui, on en paye le prix.
On était le pays le meilleur classé d'Europe. Actuellement, on est les plus mauvais du monde.
Inquiet, amer et strictement confiné, à partir de dimanche, les Portugais ne pourront plus quitter le pays, sauf impérieuse nécessité. Lisbonne, Laurent Macchietti, Louise Baudet, France Inter.
Le Portugal qui, par ailleurs, pourrait devenir aujourd'hui le 4e pays en Europe à légaliser l'euthanasie. Le texte qui devrait être adopté prévoit une mort médicalement assistée pour les malades en souffrance extrême, atteints de pathologies incurables.
Et puis Agnès, les 900 centres de Pôle emploi vont rester fermés aujourd'hui.
Sous le choc de l'assassinat hier matin d'une conseillère dans l'agence de Valence, tuée par un ingénieur au chômage de 45 ans qui a également abattu la directrice des ressources humaines d'une société dans laquelle il a travaillé il y a plusieurs années. L'enquête se poursuit également pour voir s'il y a un lien avec la mort d'une DRH tuée par balle mardi dans le Haut-Rhin. L'émotion est très forte dans les agences Pôle emploi et particulièrement donc dans celle de Valence où s'est rendu hier Willy Moreau.
Des cris, des larmes de la famille qui arrive sur place et à l'étage de l'agence, les collègues de Patricia, cette conseillère de 53 ans, sont accompagnés psychologiquement. Des accolades pour se soutenir tant bien que mal. Le maire de Valence, Nicolas D'Aragon, n'arrive pas à retenir ses larmes.
Bien sûr qu'on partage la peine. Son mari est présent sur place. C'est un employé de la communauté d'agglomération, quelqu'un qu'on connaît. Enfin, Valence n'est pas une ville si grande que ça, donc quand on rencontre des gens qu'on a l'habitude de voir et qui sont dans un tel état de choc et qu'on vit un moment pareil avec, avec les secours, avec la police, avec tout le monde sur place, c'est vraiment un moment de grande tristesse et de dureté. Voilà.
Une injustice pour cette femme très appréciée. Ses collègues ont pu parler d'elle à Jean Basser, le directeur général de Pôle emploi.
On a vécu un drame inqualifiable, intolérable. Il y avait une personne qui consacrait sa vie aux autres et qui a été abattue froidement. Et donc c'est l'incompréhension qui domine. la tristesse et une forme sans doute de colère, parce que cette personne, là, notre collègue, était très engagée dans son travail.
Hier, les agences Pôle emploi en Auvergne-Rhône-Alpes ont fermé. Ce sera le cas aujourd'hui dans tout le reste de la France, en signe de solidarité.
Reportage de Willy Moreau. Les négociations s'annoncent tendues cet après-midi entre la grande distribution et les industriels de l'agroalimentaire. Il s'agit de s'entendre sur les prix qui seront pratiqués cette année sur fond de crise économique. C'était, disait-il, la place du con. Jean Le Cam a bouclé son Vendée Globe hier soir et par le jeu des bonifications terminé à la quatrième place au pied du podium, mais un con flamboyant, sauveteur de Kevin Escoffier, doyen de la course et au franc-parler dont on ne se lasse pas. Nous l'entendrons dans le journal de 8h. Boris Herman est 5e, Thomas Ruyant 6e, David Séguin 7e et Giancarlo Pedotti 8e. 17 concurrents sont encore en mer. De la Meurthe-et-Moselle aux Hautes-Alpes, 9 départements de l'Est de la France placés en vigilance orange avec des risques de crue, d'inondation ou d'avalanche accompagnés de vents violents. Risque de crue également dans le Pas-de-Calais. Enfin, dans les défilés de mode, autrefois, le spectacle était presque autant au pied que sur les podiums. Crise sanitaire oblige, les défilés se font désormais en vidéo. La semaine de la haute couture printemps-été 2021 s'achève aujourd'hui. L'équation pour les créateurs, faire chic et choc malgré la crise. Sébastien Sabiron.
Un mannequin qui danse sur un fond blanc, une musicienne à ses côtés, pas de décor, pas de podium. Ambiance minimaliste pour le show d'Iman Aïssi, créateur camerounais installé à Paris.
J'ai pas voulu non plus faire un vrai faux défilé, parce qu'il me disait un défilé le plus important, c'est qu'on ressent la chaleur humaine, les ambiances et tout. Comme c'était pas le cas, j'ai voulu montrer comment le vêtement bouge dans un corps sans vouloir faire trop de théâtre.
S'il est assuré sur le web de toucher un public plus large que les habitués des podiums, les ventes, elles, ne suivent pas vraiment. Iman Aïssi.
Depuis le mois de mars, aucune robe n'est sortie. Porter quoi pour aller où? Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de festival, que ce soit même des sorties privées pour s'amuser. Beaucoup de clientes n'osent pas se déplacer. Ils ne peuvent même pas venir faire les essayages.
En 2020, le marché français de l'habillement accusait une baisse de 18% de ses ventes, mais le luxe s'en sort mieux, notamment grâce à la Chine. Pascal Morand, président exécutif de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode.
S'agissant des marques de création, toutes celles qui sont tournées vers les marchés asiatiques, et en particulier le marché chinois, ont pu compenser les dommages de la crise sur le marché européen par un redéploiement des exportations, et ça vaut dans une moindre mesure pour le marché américain.
Des marques qui misent énormément sur les ventes en ligne, elles représentent jusqu'à 25% des transactions actuelles contre 13% avant la crise du Covid.
En ligne aussi, la première Fashion Week arabe pour hommes. Elle a démarré hier à Dubaï et elle a pour ambition de rivaliser avec Paris, Milan, Londres et New York comme capitale mondiale de la mode.
Merci Agnès Soubiran.